Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Emmanuel Faber, président directeur général de Danone.
Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Bienvenue ce matin sur Europe 1. Vous êtes à la tête du géant français de l'agroalimentaire, 10e groupe alimentaire au monde, avec bien sûr une vision large du marché planétaire et, plus près de nous, une connaissance fine des habitudes de consommation des Français. Justement, qu'est-ce que cette crise va durablement changer dans nos comportements alimentaires, selon vous ?
Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Cette crise, elle a révélé plein de choses. Elle a révélé une interdépendance individuelle et collective très forte, au niveau mondial et au niveau local. Elle a révélé combien notre croissance était corrélée, notre croissance économique était corrélée au carbone, au pétrole. Quand on voit que les émissions de carbone ont baissé de presque 10% mondialement pendant cette période de confinement. Elle a révélé aussi qu'on ne pouvait pas faire sans le vivant. Sans prendre en compte le vivant. Et le vivant, il a pris nos moyens de transport pour devenir une pandémie. Donc on ne peut pas faire sans réinventer un lien différent avec le vivant. Et je pense que tout ça, ça va entraîner des évolutions, en effet, dans les modes de consommation autour de la question de la souveraineté, qui n'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est la compréhension et le maintien d'une interdépendance qui est reconnu, assumé, géré.
Emmanuel Faber, c'est très important. C'est un mot qui revient très souvent en ce moment dans les discours, celui de souveraineté. C'est l'un des grands enjeux, notre souveraineté alimentaire. Justement, comment on l'assure, notre souveraineté, dans ce domaine primordial ?
La première des choses, c'est qu'elle doit se raisonner à l'échelle européenne. Nous avons, Danone, envoyé à l'Union européenne un papier qui demande une politique alimentaire commune et pas seulement une politique agricole commune. La stratégie alimentaire de l'Union européenne est en train de sortir. Elle donne des indications et des pistes qui sont très intéressantes. La réduction des pesticides, la moitié des pesticides d'ici 2030, du bio qui couvrirait 25% des surfaces d'ici 2030, une initiative carbone, l'étiquetage nutritionnel que nous poussons avec Nutri-Score depuis plusieurs années, un accès à des semences traditionnelles beaucoup plus ouvert, en particulier en France. Donc beaucoup de choses qui vont aller vers une autonomie protéique. Les protéines, c'est le gros sujet de la souveraineté alimentaire européenne, puisque l'Europe importe 60% de ses protéines de zones qui déforestent, d'une agriculture qui n'est pas durable comme celle qui doit exister en Europe. Et donc assurer l'autonomie protéique européenne, c'est fondamental pour son autonomie alimentaire.
Et puis il y a un autre aspect, Emmanuel Faber, il n'est pas normal que la moitié des fruits, de légumes, de certaines viandes soient importés en plus sur la base de normes techniques souvent moins exigeantes que celles qui sont imposées aux producteurs français. On marche sur la tête quand même.
Oui, il est clair qu'il faut, autour de l'Europe, établir un système qui permet de faire en sorte de ne pas laisser entrer des produits sans que, un, les consommateurs en soient clairement informés, et deux, que ces produits ne soient pas mis sur le marché à des prix qui fassent concurrence à une agriculture durable. Le vrai gros problème fondamental, c'est la santé des sols qui se dégrade parce que l'agriculture extrait du carbone du sol, elle émet autant en Europe, en France, dans le monde, autant de carbone que l'industrie réunie. C'est pour ça qu'on plaide absolument pour que le carbone agricole soit inclus dans l'initiative Green Deal européenne en cours, parce que c'est un enjeu fondamental de résilience pour l'agriculture. Pourquoi ? Parce que le carbone, c'est la matière organique du sol. Quand vous extrayez le carbone du sol, il perd toute sa fertilité, il laisse filer l'eau d'ailleurs, l'eau d'irrigation est encore plus gaspillée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc si on veut une agriculture demain, il faut absolument remettre du carbone dans le sol. Le meilleur moyen pour le faire, c'est de donner une valeur à ce carbone, de faire en sorte que les agriculteurs puissent générer des revenus à partir de pratiques agricoles que nous appelons de l'agriculture régénératrice, qui va permettre de remettre le carbone dans le sol et de traiter le problème de l'érosion de ces sols.
Remettre du carbone dans le sol, on vous entend Emmanuel Faber. Il y a aussi un autre sujet essentiel et d'ailleurs lié au sujet des emballages et du retour en force du plastique. En cette période cela, vous l'avez constaté, vous vous êtes engagé à trouver de nouvelles solutions d'emballage et aussi à faire disparaître le polystyrène de vos pots de yaourt. Où est-ce que vous en êtes ?
On a démarré, en effet, on a pris un engagement de 2 milliards d'euros sur l'accélération de notre politique environnementale et climatique au mois de février. En Europe, on a déjà démarré. On s'est fixé, en effet, la sortie du polystyrène en Europe pour 2024. Il n'y aura plus de polystyrène dans nos pots de yaourt. pour 2025 à l'échelle mondiale. Déjà en France, par exemple, les deux vaches...
2025, pardonnez-moi, c'est demain. Ouais. C'est pas un objectif lointain.
C'est absolument demain. C'est-à-dire qu'il faut construire toutes les filières de recyclage. D'ailleurs, la consigne est une occasion absolument manquée en France. Il faut absolument la mettre en place de façon... Parce qu'aucun pays en Europe n'a réussi, ni dans le monde, n'a réussi à atteindre les niveaux de recyclage des matières plastiques que l'on vise et auxquelles la France est d'ailleurs engagée, 80% en 2025 au niveau européen, 100% au niveau français, si on ne met pas en place la consigne. En deux ans, des pays comme la Lituanie sont passés de 36% de recyclage à 92%. Nous, en France, on est encore à 56%. L'Indonésie est à 60%. Donc, il y a vraiment un énorme progrès à faire.
C'est édifiant. Plus largement, ouais. Emmanuel Faber, tous ces changements vous ont encouragé au sein de Danone à accélérer votre transformation en une société. On appelle cela une société à mission en bourse avec des objectifs sur la santé, sur les ressources de la planète. Tout cela, et je l'explique et en même temps à nos auditeurs, tout cela est inscrit dans vos statuts. Ça veut dire que c'est gravé dans le marbre ?
Oui, alors ça le sera, puisque ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est que d'une certaine façon, c'est un référendum. Le conseil d'administration a proposé aux actionnaires, à nos 300 000 actionnaires, de voter le 26 juin pour la prochaine Assemblée Générale pour transformer la constitution de Danone, les statuts de Danone, et inscrire quelque chose qui existe depuis 50 ans chez Danone, qui est un double projet économique et social, une mission à porter la santé par l'alimentation au plus grand nombre qui existe depuis 2005, c'est Antoine Riboud, puis Franck Riboud. Nous, aujourd'hui, on a des objectifs 2030 et on a...
Objectifs...
On va se servir de la loi PACTE.
Est-ce qu'ils seront évalués et rendus publics, ces objectifs? Parce que,
C'est ça qui est très intéressant.
Ça ne vaut que si c'est transparent, nous sommes d'accord.
Et ça change le gouvernement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va, le conseil d'administration va nommer un comité de mission d'experts mondiaux dans ces domaines-là. Vous l'avez dit, l'impact sur la santé, les ressources de la planète dans notre écosystème, comment est-ce qu'on construit le futur avec nos équipes, comment est-ce que notre croissance est plus inclusive, qu'elle prend en compte tout notre écosystème de petites entreprises, de partenaires, l'amont agricole, la distribution, etc. Mm-hmm. Ce comité sera chargé de rendre compte publiquement tous les ans à l'Assemblée Générale des Actionnaires directement, donc il ne reporte ni au PDG, ni à moi-même, ni au comité, au conseil d'administration, directement aux actionnaires, des progrès que nous avons faits, des manquements éventuels, puisque ces objectifs vont être quantifiés avec des indicateurs précis.
Emmanuel Faber, nous parlons de ces objectifs vertueux. Au moment où des vagues de licenciements pourraient arriver, où il y a des fermetures d'usines qui sont prévues, le président de la République va annoncer tout à l'heure un plan automobile. Quand on bénéficie d'aides de l'État, de prêts garantis par l'État, c'est aussi l'argent du contribuable, est-ce qu'il faut s'engager à ne pas fermer des sites et des usines en France, selon vous ?
Je pense que il faut un équilibre, en effet. Et cela étant, il ne peut pas y avoir de règles générales.
Ça veut dire quoi, un équilibre, précisément ?
Un équilibre, c'est que nous, on a décidé, par exemple, qu'on finançait nous-mêmes nos mesures de chômage partiel en France, parce qu'on estime avoir les moyens de le faire. On a voulu protéger de ce point de vue-là. Danone a mis en place une protection sans précédent, puisque pendant trois mois, entre le mois de mars et le mois de juin, nous protégeons intégralement tous les salaires et tous les emplois.
Vous n'avez pas eu besoin du dispositif de chômage partiel ?
On a estimé, on y a eu recours, mais sans que ce soit l'État qui le paye. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des salariés en chômage partiel,
bien
mais
sûr.
C'est nous qui les payons. À partir du moment où on fait appel à de l'argent public, il me semble normal qu'il y ait des contreparties. Ensuite, chaque secteur, chaque situation, on ne peut pas faire la même chose quand on est une des 300 grandes entreprises françaises et quand on est un des 3,5 millions d'indépendants qui eux-mêmes emploient 2 millions de salariés en France. La sociologie de l'économie, elle est extrêmement diverse en France.
Protéger,
c'est ça qu'il faut reconnaître.
Emmanuel Faber, protéger vos salariés, vos employés. Je rappelle qu'il y en a 9 000 en France et le groupe compte près de 100 000 salariés dans le monde. Et protéger aussi vos actionnaires. Vous avez versé les dividendes, là je parle de l'année 2019, à vos actionnaires. C'est aussi une volonté de les protéger.
Absolument. C'est un moment où, pour nous, il y a trois parties dans cette crise. Il y a la phase dans laquelle on est en train de rentrer, avec des confinements qui atteignent très profondément la croissance économique. Et là, on a voulu mettre une protection totale dans la mesure où on en avait les moyens. Donc on a protégé nos agriculteurs. On est même allé collecter dans le Cantal, dans le Jura, chez des petits producteurs d'AOP de fromage parce qu'ils ne trouvaient plus de débouchés dans la restauration. Donc on a fait un travail de protection de notre écosystème. On a évidemment protégé nos salariés, comme je l'ai dit. On a protégé en faisant ça aussi nos clients, en servant coûte que coûte nos clients, avec des coûts, évidemment, des surcoûts majeurs compte tenu des difficultés opératoires. Et donc il nous a semblé normal et cohérent dans cette première phase de protéger aussi nos actionnaires en versant les dividendes prévus parce qu'après tout les actionnaires ce sont les gens
qui contrairement à d'autres groupes qui ont décidé d'autres choix, on va dire.
Oui, chacun fait ses réglages. Voilà. On l'a fait comme ça. Oui.
Emmanuel Faber, vous restez avec nous depuis votre poste d'observation et d'action. Vous avez aussi une vue large du déconfinement, de ce qui se passe dans le monde. On va continuer à en parler. Les questions de nos auditeurs avec vous, Mathieu.
Au 39-21 et sur le hashtag Europe 1 avec Emmanuel Faber, le PDG de Danone, dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à tous sur Europe 1.